Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Ils sont faits pour jouer ensemble. Leur talent est infusé par l'intelligence, le charme, la sincérité et la singularité. Je reçois Isabelle Gélinas et Stéphane de Groote, qui à partir du 28 janvier, au Théâtre de la Renaissance à Paris, défendent la nouvelle pièce irrésistible d'Yvan Calberac, Un amour de jeunesse. Alors je rappelle bien sûr qu'Yvan Calberac avait récolté le Molière l'année dernière de la meilleure pièce comique pour La Dégustation. Voilà, tout ça est très prometteur. Bon, la pièce qui en fait nous réunit aujourd'hui à un titre auquel il ne faut pas se fier du tout, n'est-ce pas ? Un amour de jeunesse. On va vous révéler pourquoi.
Europe 1.
Mais d'abord, bienvenue à tous les deux.
Merci. Merci.
Bon, Isabelle Gélinas, Stéphane de Groote, les comédies intelligentes ont souvent une fonction cathartique, comme celle de Molière, de Goldoni, de Beaumarchais. Mais celle-ci, particulièrement parce que, en fait, c'est une comédie sur l'argent, les sentiments qu'on met autour, les idéaux de jeunesse et puis le partage des richesses. Une comédie écrite dans un contexte de grande tension sociale, alors que se réveillait en novembre 2017 la lutte des classes. Il est quand même assez rare d'oser parler ainsi d'argent dans une comédie moderne sans fausse pudeur.
Isabelle ?
Parce qu'elle va loin, cette comédie.
Stéphane ? Ah oui, nos personnages n'ont effectivement aucune pudeur et ils assument totalement ce qu'ils sont et ils sont surtout prêts à tout. Enfin, particulièrement ton personnage, Stéphane. Elle est un peu allumée, elle est un peu, c'est une aristocrate complètement décalée par rapport à la réalité. Donc je suis un peu l'homme que j'aime. Et lui, sa peur absolue, c'est de manquer. Sa grand-mère a tout perdu, ils avaient de l'argent, ils ont tout perdu. Donc il est traumatisé, il a fait fortune dans Internet. Et c'est sa grande peur, c'est de manquer.
Alors, il a fait fortune dans Internet. Et à ce moment de la conversation, il faut vraiment essayer de nous présenter le postulat de départ d'un amour de jeunesse. Alors le postulat de la pièce, c'est lequel, en fait?
Alors, Isabelle est très forte pour.
Ah bon, résumé ?
Ouais. Non, pas tellement, mais bon, j'ai essayé.
Je trouvais ça vachement bien.
Donc, Antoine, joué par Stéphane de Groote, est un homme donc, qui a fait fortune dans Internet. Il vit avec Diane, qui est une descendante des Bourbons, donc une aristocrate pure sang bleu. Et il apprend un beau matin par son avocat. Un, qu'il a été marié il y a 25 ans, il n'en a aucun souvenir, parce que pour lui, il a fait une cérémonie un peu en Inde, un peu folklorique, exotique. Sauf que son mariage a été validé en France, il y a 25 ans, il ne s'en souvient pas. Et sa femme, son ex-femme, donc avec qui il s'est marié il y a 25 ans, arrive en France pour 3 jours. Elle travaille dans l'humanitaire, elle n'a pas de patrimoine du tout. Et elle arrive en France pour demander le divorce. Et donc, il risque
d'y avoir partage de la fortune.
Voilà, d'être obligé de partager toute sa fortune avec cette femme. Et pour lui, c'est impossible, impensable, inacceptable. Et donc, ils vont mettre en branle tout un stratagème, un scénario, pour faire croire à cette femme qu'ils sont pauvres, de chez pauvres, qui vivent à Sarcelles. En fait, on va emprunter pour quelques jours, le temps que cette femme soit à Paris, on va emprunter l'appartement de notre femme de ménage, donc qui est dans un HLM à Sarcelles, et on va jouer aux pauvres.
Alors, Michel Bouquet, qui fut votre professeur au conservatoire, Isabelle Gélinas, oui. Michel Bouquet dit que, en fait, il faut toujours chercher le drame dans la comédie et l'inverse.
Et la comédie dans le drame.
Voilà, donc c'est ainsi, tous les deux, que vous défendez le rire dans cette pièce.
Alors, moi, je pour être très honnête, je ne suis pas d'une école. Isabelle a eu la chance de travailler avec des gens comme Michel Bouquet. Moi, mon école, je me la suis faite en faisant les choses. Du coup, je n'ai pas de théorie.
C'est vraiment feeling. Mais vous vous retrouvez quand même dans ce conseil.
Absolument. Ouais. Mais c'est après coup, quand on définit les choses théoriquement, que je comprends pourquoi, dans la pratique, j'ai pu embrasser ce genre de procédé. Et je le comprends tout à fait. C'est très juste. C'est absolument juste. C'est tellement pertinent. Mais je le fais sans le savoir.
C'est pour ça, par exemple, c'est que Bourville était grandiose.
La comédie demande beaucoup de sérieux. Mmh. On peut dire.
Absolument. Et de rigueur.
D'accord. Si c'est pas crédible, c'est plus la comédie. Il faut que la base soit crédible et après on l'envoie où on veut. Mais il faut que le point de départ soit vraiment sérieux.
Faire rire, c'est pas rire de ce qu'on fait.
Absolument. Alors Stéphane de Groote, au théâtre, après la première représentation, on n'a plus, comme au cinéma, le metteur en scène qui, après chaque scène, s'écrit « Coupé !» Bon, c'était super, mais maintenant, on va la refaire comme ça. Le metteur en scène, au théâtre, il a donné son schéma, vous l'avez digéré, ce schéma, et puis chaque soir, c'est vous qui pilotez. Ça représente vraiment une liberté immense par rapport au cinéma.
Alors, c'est une liberté, mais il y a toujours la contrainte. Et je pense, paradoxalement, que quand il y a une contrainte, il y a une forme de liberté.
Absolument d'accord avec toi.
S'il n'y a pas de limite, ça devient n'importe quoi. Voilà. Donc, on est libre, oui, mais il y a cette structure qu'on a intégrée, que le metteur en scène nous a proposée, mais on va rester dans ces structures. On va s'aménager, on va aménager certaines choses pour, au fil des jours. On devient notre propre metteur en scène. Donc, ce n'est pas parce qu'on est libre et que le metteur en scène ne vient plus qu'on fait n'importe quoi.
Bien sûr, bien sûr. Surtout qu'il y a franchement de la matière.
Je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire.
C'est magnifique. C'est vrai. Bon, alors, le soir de la première, Isabelle Gélinas, Stéphane de Groot, le soir de la première, c'est-à-dire le 28 janvier. Bon, Stéphane va faire remonter en lui cet art très particulier de la concentration qu'il, en fait, était le sien quand il était pilote de course. Vous, Isabelle, bah, j'ai du mal à vous imaginer traqueuse. Parce que souvent, vous avez répété en interview que dans un théâtre, vous vous sentez à l'abri de tout. Vous êtes comme dans un nid. C'est-à-dire que votre loge, les coulisses, la scène, tout ça, ça forme une sorte de géographie magique.
Je me sens totalement protégée dans un théâtre. J'ai pas un énorme trac, ce qui est pas très bon signe d'après, je sais plus qui, Louis Jouvet. Ma petite, vous commencerez à avoir du talent quand vous commencerez à avoir le trac. Mais non, j'ai un bon trac. C'est-à-dire, j'ai un trac, je piaffe, j'ai envie d'y aller. Mais moi, je suis une grosse bosseuse. Donc, j'ai l'impression d'avoir, en général, d'être bien préparée. Donc, j'ai vraiment hâte de lâcher les chevaux et d'y aller. Donc, j'ai pas le trac qui fait trembler les mains.
Donc là, tous les deux, vous avez hâte.
Ah bah oui.
Ah, absolument. On appréhende avec beaucoup de gourmandise la présence du public, désormais.
Eh ben, en vous écoutant, je peux vous assurer que c'est nous qui avons hâte. Alors, on fait une pause très, très courte et on retrouve dans un instant, une poignée de secondes, mes invités cet après-midi, Isabelle Gélinas et Stéphane de Groot.
Europe 1. Actu, anecdote, parcours de vie. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. C'est la suite avec Isabelle Morizet et ses invités.
Les auditeurs d'Europe 1 se régalent chaque matin à 9h55 de ces chroniques dans Culture Média. C'est Stéphane de Groot que je reçois avec une autre virtuose de la comédie, Isabelle Gélinas, car ils jouent ensemble la nouvelle pièce d'Yvan Calberac, Un amour de jeunesse, au Théâtre de la Renaissance à Paris. Alors, Stéphane de Groot, vous dites l'esprit belge est une forme de normalité absurde dont j'ai vraiment besoin. Même en 2020, la mondialisation ne peut rien contre la cocasserie si singulière de l'esprit belge.
Non, je pense que... Alors certes, on regarde le monde tourner parfois à l'envers. On a toujours notre regard posé sur les choses, mais notre regard est, comme vous le disiez, singulier. Du coup... ça nous fait des pensées plurielles sur ce qui se passe. Parce c'est culturel, c'est ancré en nous, une espèce de bonhomie. Par exemple, par rapport à ce métier, il n'y a pas de star system chez nous. Il n'y a pas de magazine dédié aux stars, il n'y a pas d'émission, il n'y a pas Voici, il n'y a pas tout ça. S'il n'y a pas tout ça, c'est parce qu'il y a une mentalité. Et cette mentalité, elle demeure.
Elle est rafraîchissante. Alors vous, Isabelle Gélinas, vous avez passé votre enfance chez nos cousins de la belle province, au Canada, à Montréal. On ne regarde pas tout à fait le monde avec les mêmes yeux à Montréal et à Paris.
Ah mais pas du tout. Mais
pas du tout.
Nous, on regarde le monde comme les Belges.
Exactement.
C'est-à-dire que quand je vais à Bruxelles, j'ai l'impression d'être à Montréal. Mais je vous assure, parce qu'il n'y a pas le côté cynique des Français.
Ouais.
On développe à fond l'autodérision. Je me sens, enfin c'est terrible à dire, mais je me sens plus à l'aise en Belgique qu'en France. Même si je n'y vais pas très souvent.
Vous êtes pardonné. Alors, Stéphane de Groot, vous êtes né à Bruxelles. Vous avez passé votre enfance dans les Flandres, votre adolescence en Wallonie. Vous êtes donc brelge, comme vous aimez dire. Mais dans un premier temps, ce multiculturalisme vous a brouillé avec les mots. Vous étiez un enfant dyslexique. Alors, comment se fait-il qu'aucun prof de littérature n'ait repéré le futur virtuose qui, un jour, en fait, justement, se jouerait du langage, comme dans Voyage en Absurdie, Retour en Absurdie, le livre de la jungle. Aujourd'hui, livre des mots, livre avec un L apostrophe. Vos profs étaient aveugles ou bien, franchement, vous avez bien caché votre jeu ?
Je pense que c'est un peu tout ça à la fois. Ils étaient aveugles, moi j'étais à moitié muet, en tout cas mutique.
Pour un futur comédien.
Oui, mais c'est ça aussi, c'est que de nos faiblesses, on en fait des forces. J'aime toujours à faire cette comparaison. C'est moi, je suis pas potier. Alors si je laisse tomber un vase et que je le recolle à ma manière, alors certes, il va être moins joli et moins droit qu'un vase qu'on aurait pu acheter dans un magasin, mais ça reste un vase. Ça sera le mien. Il sera de travers. Mais on va quand même pouvoir y mettre des fleurs et il sera différent. Et en fait, au fil du temps, j'ai accepté et j'ai nourri cette différence. C'est là où j'ai compris que c'était intéressant d'être différent. Et j'ai fait tellement de choses pour aller à la rencontre de moi-même Je ne savais pas très bien qui j'étais. Je ne me retrouvais pas tellement dans le corps dans lequel j'habitais. J'étais gros, j'étais flasque. Je me suis dit, mais c'est, donc
difficile
c'est moi.
Difficile à imaginer, Isabelle.
Je me suis dit, est-ce que je dois composer avec ça? Et puis au fil du temps, je me suis occupé de mon corps, puis je me suis occupé de mon esprit, puis je me suis occupé de moi. Puis... En fait, il faut être en accord avec soi-même. Donc moi, je me suis mis d'accord avec moi-même pour aller quelque part. Et on y est allés tous les deux.
Alors vous, Isabelle Gélinas, jusqu'à votre arrivée en France à l'âge de 9 ans, vous avez eu au Canada une enfance assez solitaire car votre sœur, de 10 ans votre aînée, n'est-ce pas ? Votre sœur était Ptira à l'Opéra de Paris. Mmh. En fait, cette sœur artiste qui dansait sur l'une des scènes les plus prestigieuses du monde, à l'époque, bah, vous ne la voyez que pendant les vacances ?
Oui, exactement. Les 3 premières années, je ne l'ai vue que l'été et aux vacances de Noël.
Ça devait être terrible aussi pour vos parents ?
Pour mes parents, c'était dur. Pour elles, c'était dur. Moi, je n'étais pas tellement consciente parce que j'étais trop petite. Mais oui, c'était particulier comme situation quand même. Parce que j'ai connu ma sœur vraiment à partir de 3 ans.
Et puis 10 ans d'écart, c'est pas anodin.
C'est beaucoup. Ouais.
C'est beaucoup.
Ouais. Mais maintenant, c'est moi l'aînée.
Ça, c'est un autre débat. La danse classique ne vous a jamais fascinée avec non. une sœur qui
le rêve
dansait
de mon
à l'opéra
père. C'était le rêve de mon père que je sois danseuse. J'ai pris quelques cours de danse. Ça a été épouvantable parce que je suis tout sauf gracieuse. Et non, mon père aurait adoré que je sois danseuse. Bon, comédienne, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes deux parents ont été très tolérants. Ils m'ont juste demandé de passer mon bac d'abord, selon l'expression consacrée, et quand même de m'inscrire en fac. Donc je me suis inscrite en fac 1 mois et heureusement, j'étais reçue à la classe libre chez Florent.
Et donc, c'était le début. Mais voilà, alors, il y a quand même une anecdote qu'il faut nous raconter parce qu'il paraît... Lorsque vous avez, je ne sais pas quel âge vous aviez, vous allez nous le dire, il paraît que votre maman, lorsque vous avez révélé cette vocation comme ça très tôt, votre maman vous a amené chez son cousin, sociétaire à la Comédie Française, Jean Davy, pour que vous passiez devant lui un casting, une espèce d'audition, c'est ça ?
C'est absolument vrai. C'est juste après mon bac, donc je dis à mes parents que je veux être comédienne. Et donc maman m'a dit, bon bah, très bien, bah, on va aller voir Jean. Qui était son cousin Germain, Jean Davy. Et donc me voilà, 17 ans, en train de passer une audition d'un Marivaux avec ma meilleure amie de l'époque, Clotilde de Bézère. Et nous voilà toutes les deux dans leur salon à 3 mètres 2, ce qui n'est pas évident comme exercice.
Mais toutes deux, vous êtes devenues comédiennes.
Toutes deux, on est devenues comédiennes. Et Jean a dit tout de suite à maman, il faut absolument la laisser faire. Elle est faite pour ça, c'est sûr. Elle a tout, le rythme, tout. C'est bon, il faut la laisser faire. Il est allé plus loin parce qu'il m'a même engagée. Il avait une compagnie
théâtrale
où on jouait l'été au Luxembourg, pas le jardin mais le pays. Et donc je me voilà partie du haut de mes 17 ans et demi en train de jouer mes premiers spectacles, des pièces de Molière.
Mais maman était rassurée.
Maman était rassurée. Et ça m'a donné comme un espèce de blanc-seing, un passeport pour y aller.
Donc, alors vous, Stéphane de Groot, vous avez humé très tôt l'atmosphère des circuits automobiles et vous y avez pris goût au point, à l'âge de 15 ans, d'avoir deux rêves. Devenir pilote et devenir acteur. Deux rêves flamboyants. Alors déjà, comment s'est réalisé le premier ? Parce que vous n'étiez pas du sérail, vous n'aviez pas l'argent nécessaire, il fallait trouver des sponsors, les convaincre de votre talent de pilote. Comment fait-on ça quand on ne connaît personne dans le milieu ?
En passant par la fenêtre, en passant par la cheminée, en essayant de défoncer les murs pour exister. Mais en plus, au début, je pense que j'étais un conducteur lambda et qui avait
vous
envie...
Vous n'étiez pas un pilote, vous étiez un conducteur.
Oui, je conduisais vite les voitures, mais j'étais pas un pilote. Et en fait, fondamentalement, je pense que j'étais un comédien, un acteur qui avait envie de jouer au pilote. Mais le jour où je me suis retrouvé sur un circuit, j'allais pas très vite. Et le team dans lequel j'étais me disait, mais Stéphane, terminer une course dernier 3 fois de suite, c'est pas l'idée, alors qu'on t'a mis une bonne voiture entre les mains. Et un jour, il y a un pilote qui m'a dit, mais il suffit d'une seconde pour passer de dernier à premier. Et une seconde, c'est 1/10 dans chaque virage. 1/10, c'est rien.
Alors,
il dit, c'est pas grand-chose.
Qu'est-ce que vous êtes allé trouver, chercher en vous pour que... Vous êtes quand même devenu champion de Belgique, n'est-ce pas, sur BMW.
Mais on en apprend des choses.
Mais oui.
Merci Isabelle.
Non, après, effectivement, je suis devenu pilote et j'ai eu une carrière et j'ai roulé dans différents pays d'Europe, d'ailleurs. Et voilà, j'ai eu un beau parcours. Mais c'était... Chaque fois, des petites choses, un petit déclic, c'est une seconde, tu passes de dernier à premier. Il suffit d'un rien pour changer le destin de quelqu'un. Et j'ai commencé à gagner des courses.
Europe. Alors, de la passion, de l'audace et puis de l'acharnement quand même. Rien ne résiste à ça. On retrouve tout de suite Stéphane de Groot et Isabelle Gélinas réunis dès le 28 janvier au Théâtre de la Renaissance à Paris pour la pièce « Un amour de jeunesse ».
Europe.
15h21 pile, vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. On retrouve Isabelle Morizet qui reçoit cet après-midi un duo d'acteurs. L'un est belge, Stéphane de Groot, et l'autre franco-canadienne, Isabelle Gélinas.
Isabelle Gélinas et Stéphane de Groot sont mes invités cet après-midi pour la pièce qu'ils interprètent au Théâtre de la Renaissance à Paris à partir du 28 janvier, Un amour de jeunesse. Alors, cher Stéphane, on vous retrouve en fait là où on vous a laissé il y a un instant, c'est-à-dire sur les circuits automobiles, où vous avez décroché le titre de champion de Belgique en BMW Compact Cup, tout en rêvant de Formule 1. Alors, j'aimerais bien savoir quand même, c'est plus difficile d'accéder à la F1 en Belgique?
Oui, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué.
Pourquoi?
Il y a des intérêts croisés, il y a des enjeux qui nous dépassent un peu. Et en plus, moi, j'ai commencé assez tard. Donc moi, j'ai fait toute la filière monoplace. Je suis arrivé jusqu'à l'antichambre de la Formule 1, en Formule 3000. Et puis surtout, à un moment donné, je me suis dit, mais si je continue à évoluer dans ce métier, enfin à rester dans ce métier, je vais laisser passer ma chance dans le métier de comédien, qui m'occupait quand même bien l'esprit. Parce qu'en parallèle de mes courses, je faisais beaucoup d'impro. J'ai fait de l'impro pendant 6-7 ans.
Oui, vous meniez une double vie.
Oui, oui, je menais une double vie. J'écrivais déjà des trucs, je faisais du théâtre en amateur avec des copains. Donc, je nourrissais quand même mon envie d'acteur en marge de mes courses. Et d'ailleurs, quand on m'interviewait sur les circuits, je faisais l'idiot parce que j'avais envie de... La caméra me titillait. Je faisais des micro-trottoirs avec des copains, avec mon frère, juste pour faire quelque chose avec la caméra.
Et il paraît d'ailleurs qu'au volant, en fait, vous sentiez déjà comédien, vous aimiez faire le spectacle. En fait, c'était le fantasme de Jean-Louis Trintignant dans Un homme et une femme et de Steve McQueen dans Bullitt, c'est ça?
Mais dès qu'il y avait du public, parce que sur un circuit...
Piloter, c'était en fait tenir un rôle.
C'était tenir un rôle, c'était faire le spectacle. Vous avez une piste, mais en fait, c'est la scène. Vous avez des tribunes pleines, c'est le spectacle. C'est l'adrénaline aussi. Moi, Isabelle le sait, quand on a un rideau qui se lève un soir de première, il y a quand même un trac immense, une montée d'adrénaline assez incroyable. Mais c'est ce que j'ai ressentais quand le feu passait du rouge au vert sur une grille de départ. Donc je retrouve aussi des émotions de l'époque.
Et donc, en parallèle, vous aviez monté une troupe de théâtre, vous faisiez de l'impro, vous passiez des castings. Ça se passait comment, les castings?
Mais au tout début, j'essayais d'exister, de passer à la télé. Donc un jour, je me suis fait engager comme chroniqueur sur une émission de télé.
Ouais.
En étant chroniqueur, ils m'ont donné un rôle un peu plus important à faire dans cette émission. Et puis, il y a une productrice qui m'a repéré, qui m'a dit, tiens, est-ce que tu n'as pas envie de faire un rôle dans un feuilleton? Donc, ce que j'ai fait. Et puis, un réalisateur de cinéma qui m'a repéré, c'était Francis Giraud qui m'a dit j'ai envie de vous faire passer des essais pour un film qui va s'appeler Mauvais Genre.
Avec donc voilà, le conservatoire c'est formidable, mais on peut faire autrement aussi.
Mais s'il n'y a pas le conservatoire, il faut faire 1000 choses autrement. si on n'est pas dans
Francis Giraud qui était prof au conservatoire.
Alors justement,
parlons
de conservatoire, ah oui. Isabelle Gélinas, parce que vous êtes passée par ces arcanes-là plus classiques. Mmh. Après le cours Florent, donc vous avez été reçue au conservatoire, vous avez été l'élève de Daniel Mesguich, et puis Daniel Mesguich et surtout Michel Bouquet. Vous rêviez tragédienne à cette époque-là ou bien vous étiez curieuse de tout expérimenter?
Non. Moi, j'étais que dans la comédie. Dès que j'essayais de travailler un Tchekhov ou un Racine, je me faisais rire moi-même tellement je me trouvais nulle. Mais en fait, j'avais rien à l'intérieur de moi. Moi, je suis rentrée au conservatoire à 19 ans, le jour de mes 19 ans, donc j'étais quand même assez jeune. J'avais pas de bagages. Je voyais mes camarades qui vivaient seuls déjà dans des chambres de bonne, qui se débrouillaient, etc. Moi, je vivais chez mes parents. J'étais une petite bourgeoise. J'avais pas de problème, quoi.
Et vous aviez tout à apprendre de la vie.
Ben exactement. C'est la vie qui nous donne de quoi alimenter nos personnages. Et
alors, vous dites
voilà,
que
c'est notre matériau.
Ce tempérament comique s'est révélé immédiatement au conservatoire. Aujourd'hui, vous aimeriez bien jouer un Tchekhov.
Oui, j'aimerais
ou jouer,
bien. Mais moi, j'ai envie de tout jouer.
Des rôles très dramatiques.
J'ai envie de tout jouer. J'ai moins de complexes maintenant, je me sens plus capable d'aborder des registres qui n'étaient pas du tout faits pour moi.
Quels étaient vos complexes?
Ah bah parce que moi j'étais dans chez Mesguich par exemple, j'étais dans une classe où il y avait que des tragédiennes qui pleuraient, qui tout ça et je me disais oh là là
qui jouaient si bien à mourir, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et puis moi j'aime déclencher le rire avec mes amis, j'aime avoir une histoire à raconter et qu'ils se marrent quoi, c'est ma joie. De faire rire mes amis et à plus large échelle, de faire rire les gens, de les divertir. Mais j'aime bien aussi les prendre à l'émotion. Enfin, la pièce avec Robert Hirsch, le père, c'était vraiment une pièce...
Qui vous a valu à Molière.
Merci de te rappeler.
Comme Yvan
Cabéra. La pièce avec Robert, c'était une pièce donc de Florian Zeller. Le fond était atroce, mais Florian avait mis sous le père, il avait mis farce tragique. Et je trouve que c'était très bien trouvé parce qu'il y avait beaucoup de drôlerie aussi, parce que mon père de la pièce ne m'aimait pas, il préférait ma sœur cadette. Comme il était en Alzheimer, il sortait des trucs atroces. Donc c'était à la fois drôle et horrible. Et moi j'adore ça, quand on peut mélanger les deux.
Oui, puis on en revient à la fameuse phrase de Michel Bouquet, chercher le drame, n'est-ce pas ? Le trouver surtout, le drame dans la comédie et l'inverse.
Exactement.
Alors Isabelle Gélinas, entrer à la Comédie Française comme le cousin de votre maman, en fait c'était pas votre but ?
Non, pas du tout.
Non.
Mais non. Bon, déjà, on ne me l'a pas proposé, hein, petit A. Hein, remettons les choses dans l'ordre. Et si on me l'avait proposé, j'aurais été bien embêtée de dire non. Mais je pense que j'aurais dit non quand même. Parce qu'à l'époque, c'était quand même encore très... la Comédie Française, c'était très... Les clans...
Institution rigide.
Ouais. Moi, j'avais pas envie de ça. Europe.
Alors, le dénominateur commun dans vos parcours à tous les deux, si différents, Stéphane Degroote et Isabelle Gélinas, c'est bien, c'est que la célébrité, la vraie, c'est-à-dire la popularité, est arrivée après que vous ayez soufflé vos 40 bougies. On va revivre tout ça dans quelques instants.
Europe. Il est 15h31, retour sur la conversation d'Isabelle Morizet avec ses invités. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite sur Europe 1.
Pilote de course, comédien, auteur, il se définit comme un obsédé textuel et ses chroniques font merveille chaque matin à 9h55 dans Culture Média sur notre antenne. C'est Stéphane Degroote. Comédienne hors pair, couronnée d'un Molière. C'est la télévision qui lui a offert la célébrité grâce à la série culte Fais pas ci, fais pas ça. C'est Isabelle Gélinas. Et voilà, je les reçois tous les deux pour la pièce qu'ils vont jouer au théâtre de la Renaissance à Paris, Un amour de jeunesse, à partir du 28 janvier. Alors Stéphane Degroote, c'est l'auteur avant le comédien qu'a découvert le grand public lorsque vous êtes apparu sur Canal avec vos chroniques qui donnaient aux mots un sens réinventé, en fait. Vous dites, pour moi, écrire, c'est penser sa pensée. Cette formule-là, elle aurait beaucoup plu à Oscar Wilde. Penser sa pensée.
J'adore Oscar Wilde, donc ça tombe bien. Mais écoutez, les phrases comme ça ou d'autres, moi je considère vraiment la langue française... Mais dans tous les sens du terme, comme un trésor. Et donc, un trésor, ça se cherche. Je découvre des mots en les associant. Vraiment, tout d'un coup, j'ai l'impression d'avoir trouvé un trésor caché dont personne n'avait jamais parlé. Même d'ailleurs, par exemple, bêtement, le titre de mon livre, Livre de mots.
C'est magnifique, ça. On se demande pourquoi personne n'a jamais... D'ailleurs, vous étiez persuadé que le titre existait.
Absolument.
Parce que livre, elle apostrophe.
Oui.
Ivre de mots. C'est splendide.
Et tous les livres sont des livres de mots ?
Bah forcément.
Donc j'étais dans ma douche et je me dis livre de mots. Et voilà. Donc c'est en cherchant en permanence et j'ai cet amour-là de la quête du mot et de la quête du son, du sens. Bah, c'est très musical un mot et donc je pense que j'évolue sur une partition de musique plus que sur un cahier à spirale.
Alors, vous dites, Stéphane Degroote, l'écriture a fait qu'on m'a estimé d'une autre manière. Souvent, des collègues acteurs ou actrices avaient lu mes livres comme Voyage en absurdie. En fait, on vous a découvert sur Canal en train de parler cette langue singulière qui a fait vos succès de librairie. Ça valait tous les castings. C'est ainsi que le cinéma est tombé amoureux de vous. En fait, le cinéma vous a fait comédien en tombant amoureux d'un auteur. C'est ça ?
C'est pas faux. C'est pas faux. Un auteur, je pense que c'est un univers. Donc le cinéma s'est dit, voilà, ce bonhomme-là, il a un univers. Mais surtout, on parlait tout à l'heure des moyens qui nous permettent d'être en lumière. Isabelle, en grande partie, c'était peut-être fait pas ci, fait pas ça. Moi, j'étais comédien avant de faire ça. Mais tout d'un coup, il y a un coup de projecteur sur ma pomme. Et on existe, tout simplement. Les télévisions qu'on a pratiquées, ce sont des révélateurs. Nous, on était là quelque part, mais on a eu la chance de passer à un moment donné à un endroit qui a fait que d'autres gens nous ont vus ou nous ont entendus. Ceci dit, le fait d'avoir eu le succès que j'ai pu avoir grâce à la télévision, à travers mes livres ou la reconnaissance du métier, à travers l'écriture, ça m'emplit de joie parce que c'est tellement moi, c'est intrinsèque à moi. Mmh. Et donc, il y a une reconnaissance qui est liée à ma pomme. Comprenez bien ce que je dis, c'est que pour les mêmes raisons, ça n'a pas fonctionné pendant des années. C'est parce que c'était singulier. Cette singularité-là, je ne m'en suis jamais départi parce que je ne pouvais pas faire autre chose que ce que je faisais. Je n'y ai pas renoncé.
Voilà. Voilà. Alors, Canal a révélé au grand public Guillaume Gallienne, Omar Sy, Fred Testo, Louise Bourgoin, Dora Tillier, des talents qui ont tous une singularité. Mais bien jouer la comédie, voilà, ça ne suffit pas, en fait.
Ça ne suffit pas. Jouer la comédie, ça ne suffit pas. Comme le disait Isabelle très justement...
Parce que beaucoup de gens peuvent jouer juste.
Oui.
Oui.
Bien
Mais
sûr.
Mais c'est pas ça qui importe.
C'est pas ça qu'on cherche.
Non. C'est comme la beauté et le charme. C'est ça. Je pense que des gens qui ont un vécu et qui ont quelque chose à nous donner, des aspérités, c'est ça. Il faut des aspérités. La beauté, c'est a priori, c'est un peu lisse. Le charme, il y a des aspérités. Et je préfère quelqu'un qui joue de manière charmante que de belle manière.
Isabelle Gélinas.
Encore une fois, d'accord.
Formidable.
Non, mais pour c'est vrai. C'est pour ça qu'on sent. Pardon. C'est pour ça qu'on sent. Il y a une vraie complicité sur scène. Voilà. Parce qu'on a la même, entre guillemets, on a la même école. On a les mêmes envies, les mêmes aspirations sur une scène. Le bonheur absolu d'entendre une salle rire. Et c'est pas tant que nous faisons rire, c'est qu'on fait rire ensemble. Sinon, on ferait du one-man show. Faire rire à deux, à trois, ça a une saveur Bien tellement sûr. Particulière.
Alors, Isabelle Gélinas, pour vous, la notoriété, la vraie popularité, en fait, qui vous a assimilé presque à une cousine de la famille de chacun, elle est venue avec Fais pas ci, fais pas ça, série culte sur France 2, pendant 9 saisons. On a tous vécu les affres des deux familles, les Lepic et les Boulet. Et j'ai appris une chose étonnante, quand vous avez passé le casting, c'était pour jouer en fait l'épouse de votre ami Guillaume de Tonquédec, qui joue le père un peu psychorigide dans la série. Donc vous deviez être Madame Lepic, mais la production a décidé de vous faire épouser Bruno Salomon. Pour quelle raison ?
Alors en fait, c'est Anne Giafferi, la scénariste, qui a eu l'idée d'intervertir parce qu'elle trouvait que et Bruno et Valérie avaient une folie
trop semblable
et que Guillaume et moi, on était un peu plus les clowns blancs et que c'était plus intéressant de nous mélanger. Et je pense qu'elle a eu raison parce que
mais voilà, ça a fonctionné.
Ouais, ça a bien fonctionné.
Alors 9 saisons, c'est tout un pan de votre vie. Le petit, par exemple, qui jouait Elliot avait 7 ans quand la série a démarré. Au dernier épisode, il mesurait 1m93.
Ouais,
voilà. Est-ce que cette famille de télévision est devenue le prolongement d'une vraie famille ?
Ah oui, parce qu'on a toujours énormément de plaisir à se retrouver. Moi, je suis toujours en contact avec, par exemple, Alexandra Gentil qui jouait ma fille.
Vous êtes partis en vacances ensemble ?
Mais bien sûr, presque tous les ans, on part en vacances ensemble. Tiffaine Haas qui jouait Soline Lepic aussi est devenue très amie avec ma fille. Oui, et Bruno, on a toujours une joie intense de se retrouver. Valérie, je la vois moins parce qu'elle travaille beaucoup, mais Guillaume, je vais le voir au théâtre quand il est là. Oui, on a été heureux. Aucun de nous ne tirait la couverture à soi. On travaillait ensemble. On était joyeux.
En fait, on était joyeux.
Ouais. Comme on a eu la chance de commencer, c'était une petite série au début, parce que c'était à 19h, ça durait 40 minutes, c'était un tout petit format, ça n'a pas du tout marché la première saison. Mais la chaîne a eu la bonne idée de se dire non, c'est nous qui l'avons mal programmé, mais c'est bien. Donc on commande une saison 2, on a commencé à tourner le premier épisode de la saison 2, la chaîne a dit c'est formidable, on commande une saison 3.
Et puis le prime arrive.
Et ça a commencé à marcher. Et en prime. Et ça a commencé vraiment à marcher en saison 3. Et après, c'est devenu... c'est devenu...
Culte. Au point que, dans la rue, par exemple, est-ce qu'on vous appelle encore Valérie Boulet ? Un petit peu moins maintenant
Quand même. Mais c'est-à-dire que c'est surtout que je vois la gourmandise et la joie. Hier encore, j'étais au théâtre et il y a des gens qui m'ont dit merci, merci pour Fais pas ci, ça nous a sauvés, on a passé des Noëls merveilleux, c'était un cadeau que mes enfants m'ont fait là, il y a 3 ans, ils m'ont offert toute la série. Parce que c'est une série qui plaisait absolument à toutes les générations et à toutes les couches de la société, c'est ça qui est assez inédit. Et parce qu'on l'a faite vraiment avec humilité, travail, et on était heureux de se retrouver, quoi. Et ça, ça se sent.
Alors, le grand public, effectivement, vous a assimilé à Valérie Boulet, mais la schizophrénie ne s'arrête pas là, parce que pendant toutes ces années, vous avez tourné dans la journée Fais pas ci, fais pas ça. Le soir, vous étiez une autre sur scène, vous jouiez au théâtre. Comment on organise toutes ces vies parallèles sans perdre son carburant ? Parce que tous les jours, vous étiez debout à 6h du matin pour aller tourner et vous ne vous couchiez jamais avant 2h du matin.
Non, parce qu'après le spectacle, évidemment, il y a l'adrénaline, le temps que ça redescende. Voilà. Après, il y a l'angoisse de se dire « Mon Dieu, je vais être épuisé demain. » Donc ça empêche de dormir aussi.
Et comment on tient pendant 10 ans comme ça ?
Parce que j'adore jouer. En fait, j'adore jouer. Je ne sais pas comment dire autrement. J'adore ça. J'adore jouer. Voilà. En fait, je suis une enfant, moi. J'aime jouer, j'aime partager. J'aime être sur un plateau de théâtre. J'aime être sur un plateau de cinéma ou de télévision. Enfin, j'adore ça.
Eh bien, cette réponse me va très bien. Allez, on s'interrompt un bref instant et on retrouve tout de suite mes invités, Isabelle Gélinas et Stéphane De Groot.
Europe 1. Stéphane De Groot et sa partenaire de jeu Isabelle Gélinas à l'affiche du Théâtre de la Renaissance à Paris dans la pièce Un amour de jeunesse se racontent au micro d'Isabelle Morizet cet après-midi. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, se poursuit jusqu'à 16h.
Stéphane De Groot, j'évoquais à l'instant le Molière d'Isabelle Gélinas pour son rôle face à Robert Hirsch dans Le Père de Florian Zeller. Depuis quand Vous sentez-vous légitime et épanoui comme comédien, vous qui avez commencé par des succès de librairie en réinventant les mots?
Ça ne date pas d'il y a très longtemps.
C'est vrai.
Ce sont des succès respectifs qui m'ont fait penser que je pouvais avoir ma place dans cet univers. Ouais, ça date d'il y a 2-3 ans seulement.
Seulement
3-4 ans.
Grâce à quel film?
Au cinéma, ça commençait déjà. Et puis, j'ai tourné un film qui s'appelait Le Jeu. Et...
Excellent.
Merci.
Oui.
Et donc là,
comédie qui a très bien marché. 2 millions de spectateurs en salle.
Un film de Fred Cavaillé.
Voilà.
Et là, je me suis dit, tiens, au fond, j'ai peut-être pas eu tort de quitter le monde automobile. Et bon, ça a commencé déjà avant. Mais moi, de toute façon, je suis pétri de doutes. Et j'espère en avoir jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est un vrai moteur.
Alors, vous êtes un réalisateur qui a déjà signé 2 courts-métrages, dont un produit par Danny Boone. J'imagine que le scénario de votre premier long-métrage n'attend plus que les dates de tournage.
Absolument. Je suis en plein dedans, là.
C'est vrai?
Oui.
Ça démarre très, très, très bientôt?
Mais j'ai signé avec un producteur. Une fois que la pièce a démarré, je me plonge dans l'écriture. L'histoire est là. Et je me réjouis à l'idée de me plonger là-dedans, parce que c'est une histoire que je porte depuis très longtemps. Ça ne vous étonnera pas si je dis que c'est lié autour des mots et du langage. Et,
on peut en savoir juste un tout petit peu plus.
Non, parce que après je suis parti pendant un quart d'heure d'explication.
Bon, d'accord.
Mais,
mais ça tourne autour des mots et du langage. Oui. Est-ce que Danny Boone participera à la prod ou pas?
Il était question il y a quelques temps qu'il y participe, et puis en fait lui il a réduit la voilure en termes de production parce qu'il a, il est très animé par toutes ses activités de comédien. Donc non, là je suis parti avec une autre production. En revanche, il avait joué dans mon premier court-métrage.
Oui.
Donc il avait produit, il m'a dit mais je produis d'abord si toi tu joues dedans, moi, alors que je ne voulais que réaliser le film. Et puis il m'a dit est-ce que je peux avoir un rôle. Et donc pour mon premier court-métrage, c'était particulier de se dire
vous
que
j'avais dirigé Danny Boone.
J'ai dirigé pour
votre
mon premier
court-métrage
Danny Boone, François Berléand.
Magnifique.
Et Pascal Arbiot.
Donc formidable, ça va, pour la brochette.
Quelques rolls sous le coude.
Bon, Isabelle Gélinas, comment se fait-il, franchement, que le cinéma vous réclame moins que la télévision et le théâtre, alors que votre premier film vous avait valu d'être nommé au César du meilleur espoir féminin?
Mais je ne sais pas.
Bon, par exemple, vous dites « Jamais de ma vie, je n'ai appelé un attaché de presse ».
Non.
Donc cette non-démarche, je voudrais savoir si elle est plutôt rare dans ce métier. Vous pensez que vos collègues, vos camarades, comédiennes, actrices,
moi, je crois que je suis
elles,
poil,
moi, sont plutôt dans l'entre-gens comme ça, il y a des réseaux,
moi,
on se téléphone.
Moi, je fais zéro concession, je ne sais pas comment dire. J'ai horreur de parler de moi. On me disait, mais il faudrait que tu prennes un attaché de presse. Non, merci. Et tant que j'ai du travail, tant que j'ai des propositions, je ne vois pas pourquoi je me...
Bien sûr.
Voilà. C'est vrai que je ne fais rien de ce qu'il faut pour...
Crime parfait se poursuit, je crois.
Oui, crime parfait, on va continuer.
On va en parler tout à l'heure.
Mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des propositions et donc je fais vraiment le minimum. Je fais le service après-vente. Mais je ne fais rien en amont, c'est-à-dire que je ne vais pas aux premières, je ne vais pas au cocktail, je ne vais pas appeler un réalisateur pour lui dire quel film merveilleux tu as fait. Je ne fais rien de ce qu'il faudrait faire.
Je ne vous vois pas dans les pages People.
Ah ben jamais. Non, si j'ai entendu dire que j'étais dans des trucs où on disait que j'étais l'actrice la mieux payée au monde, ça m'a fait bien plaisir, et que j'étais très triste parce que mon labrador était mourant. Bon, j'ai pas de labrador, mais voilà, non, je fais rien.
Enfin, vous ne faites rien, voilà, mais les choses viennent à vous.
Mais j'ai beaucoup de chance, vraiment.
Voilà.
C'est vraiment de la chance parce que je travaille régulièrement depuis que j'ai 18 ans quand même. J'ai eu un creux d'un an, je pense, vers 27, 28 ans, je ne sais plus quel âge.
Donc c'est une peccadille. Et voilà. Vous allez tous les deux nous régaler, Isabelle Gélinas et Stéphane Degroot, dans Un amour de jeunesse qui commence le 28 janvier au Théâtre de la Renaissance à Paris. À tout de suite.
Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. La suite est fin. On arrive au terme de la conversation entre Isabelle Morizet, Stéphane Degroot et Isabelle Gélinas. Le duo de comédiens nous donne rendez-vous sur la scène du Théâtre de la Renaissance à Paris pour la pièce Un amour de jeunesse.
Isabelle Gélinas, Stéphane Degroot, vous avez tous les deux des filles. Alors, j'ai dit tous les deux, pas ensemble. Est-ce que vous avez le sentiment que le regard d'une fille sur son père comédien ou sa mère comédienne est le même?
Alors d'abord, je revendique ma part de féminité. Après,
bien, bonne réponse.
Mais bien sûr, mais tellement, c'est ce qui me sauve de tout, c'est cette féminité.
Ton humour également.
Je te remercie. Et je pense que puisque nous sommes en territoire belge et que nous vivons là-bas, et qu'il y a, de nouveau, pour redire ce que je disais tout à l'heure, pas de, On ne vit pas dans ce système-là, de star system. Mes filles me regardent comme un père qui fait son métier et qui n'est pas très souvent là.
Mais après... elles ne trouvent pas ce métier plus singulier qu'un autre.
Non, après, j'ai bien vu que c'était dérangeant quand les gens venaient me trouver et qu'on était en famille dans des situations particulières. Elles trouvaient ça pas très cool. Après, parfois, je voyais un petit regard, un petit sourire en coin où elle se dit « Tiens, c'est chouette que des gens viennent dire des choses gentilles à leur père. » C'est sûr que c'est toujours plus agréable que d'avoir quelqu'un qui se fait insulter parce que par rapport à son métier, il aurait fait quelque chose qui pouvait heurter les uns les autres. Donc, il y a ce côté-là. C'est un peu paradoxal.
C'est paradoxal. Vous rêvez loin, vous rêvez grand, Stéphane De Groot, ou bien vous avez juste envie d'être surpris ?
Ah, moi, je veux être surpris. Je veux être surpris. Et arriver, la notion d'arriver, j'ai toujours cette idée de montagne. Moi, il n'y a pas de sommet. Moi, j'aime bien escalader cette montagne et puis ne pas avoir de sommet. Sinon, à un moment donné, ça s'arrête et vous retombez, vous redescendez. Ce n'est pas drôle. Après, les récompenses, moi, j'ai fait des courses pour avoir des coupes et des médailles, pour être le premier. Mais ici, dans ce métier-ci, la coupe ou la médaille, ça n'existe pas. Le fait d'avoir un Molière, un César, je trouve ça formidable. C'est une forme de reconnaissance. Mais c'est pas, je ne vais pas me balader avec une médaille ou avec mon Molière autour du cou. C'est plus de se dire, tiens, j'ai l'impression d'avoir fait mon métier de manière honnête et que ça a plu. Mais de toute façon, il y a un côté absurde aussi, pardon, mais c'est vrai que quand on voit les nommés, ben souvent ils les méritent tous les trois, tous les quatre,
bien sûr,
le César
bien
ou le Molière.
Et puis surtout, Molière. 5 minutes après la cérémonie, on ne sait plus qui a eu quoi.
Exactement.
Voilà.
Alors, chère Isabelle Gélinas, qui avait eu en 2014 un Molière et puis un César aussi pour votre premier film ? On disait tout à l'heure que la série sur France 3, Crime Parfait, se poursuivait. Vous tournez là bientôt ?
On va tourner cet été, après le spectacle.
Après la pièce qui s'arrêtera donc en juin. C'est ça,
en
au
juin.
Théâtre de la Renaissance à
Par
Paris.
Par contre, si vous voulez un énorme scoop,
allez,
on va refaire, enfin je pense, hein, normalement c'est prévu, c'est dans les petits papiers, c'est en écriture, on va refaire un épisode spécial de Fais pas ci, fais pas ça.
Mais ça, c'est formidable.
Voilà. Un spécial Noël, enfin un épisode d'une heure et demie, je crois, et donc on va tous se retrouver là, je crois qu'on devrait tourner, c'est Michel Leclerc a priori qui va réaliser et qui est en train d'écrire.
Et donc voilà. Un prime pour Noël prochain.
Voilà, exactement.
Avec toute la grande famille voilà. De Fais pas ci, fais pas ça.
Voilà.
C'est génial. Bon, en fait, l'un et l'autre, vous avez donné forme à votre rêve de gosse, jouer. On vieillit un petit peu moins vite dans sa tête quand on est acteur.
On vieillit pas du tout dans sa tête. On vieillit juste physiquement.
Au point qu'on ne se voit même pas vieillir, c'est ça ?
Oui, c'est pour ça que je ne regarde jamais les films ou les téléfilms. Je ne me vois jamais parce que quand je me vois, je suis choquée. Je me dis, ah bon, mais j'ai cette tête-là. Et je ne regarde jamais les films, je ne veux pas me voir. Dans ma tête, j'ai entre 15 et 25, on va dire.
Et vous, vous avez quel âge dans votre tête, Stéphane ?
Mais moi, c'est différent.
Parfois
parce que
7 ans, hein, même.
Moi, je n'ai pas la même démarche. C'est-à-dire que quand... alors, oui, c'est pas lié à moi directement. C'est-à-dire que je ne me sens pas forcément vieillir au sens...
Dans ta tête, non.
Dans ma tête, non. Mais quand au cinéma, on me propose des rôles de personnages qui ont un certain âge, c'est le cinéma qui me vieillit à un moment donné. Et je me dis, mais pourquoi je ne pourrais pas prétendre à ce rôle-là ou à ce rôle-là ? Et on me dit, parce que tu deviens le père de ce type-là ou de cette jeune fille, et plus le fils de quelqu'un de 35 ans.
Puisqu'on évoque le temps qui passe, Stéphane De Groot, forcément, comme tous les intranquilles, vous griffonnez pas mal de choses sur la mort. Il y a quelque temps, paraît-il, en vous baladant au Père Lachaise, vous êtes passé devant la sépulture de Pierre Desproges, le seul à avoir ses cendres, grâce à une autorisation spéciale du maire de Paris, ses cendres dispersées sur un carré d'herbe face à la tombe de Chopin. Ça donne une autre signification au mot « postérité
». Le fait de faire ça, je ne sais pas. En tout cas, c'était touchant de se dire que Desproges avait eu envie d'être proche de Chopin et d'être comme ça dispersé dans un petit carré vert. Mais c'est drôle parce que je me suis baladé effectivement au cimetière, ce qui m'a donné l'idée d'une phrase qui est dans mon bouquin.
Je me balade, livre des mots.
Livre des mots. Je me balade au cimetière sur qui je tombe. Voilà, c'est fini. Et il y avait quelqu'un qui m'a interpellé, un retraité qui me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous venez en repérage ?»
Oh non !
C'est magnifique.
Oh,
je trouvais ça
beau.
Très drôle. Oh. Et puis c'est lui qui m'a dit « Je vais vous montrer deux, trois trucs, dont cette histoire de Desproges avec Chopin derrière lui. » Non, alors après, par rapport au temps qui passe, par rapport à la mort, tout ça, je parle beaucoup de la mort dans mon bouquin, parce que je préfère en parler moi-même de la mort, de l'emporter moi-même, plutôt qu'elle se charge de moi. Donc moi, je me charge d'elle. J'ai envie de la convoquer quand je veux et où je veux,
voilà.
Et de la manière qui me sied.
Voilà, alors profitons de chaque seconde et mon Tenons-nous forts. À partir du 28 janvier, Isabelle Gélinas et Stéphane de Groot, eh ben, le Théâtre de la Renaissance à Paris vous appartiendra pour une comédie audacieuse et moderne baptisée Un amour de jeunesse, dans laquelle vous donnez la réplique, ne l'oublions pas, à Olivia Côte. Merci infiniment à tous les deux.
Et Sébastien Pierre, voilà, et Nelly Clara.
Voilà.
Exactement. Et alors, bon, c'est toujours des remerciements, ça ne parle peut-être pas grand monde, mais pour nous, ça nous parle. Il y a Betty Lemoine aussi, qui est une assistante
metteuse en scène.
Et ça fait partie de ça. Le théâtre, c'est ça. C'est que sans tous ces gens-là autour de nous, on ne parvient pas à offrir un spectacle digne de ce nom. Donc voilà. Et puis, je terminerai juste une chose, c'est
dites-nous.
Que ce métier est une chance. Est une chance. Pourquoi ? C'est parce qu'on rencontre beaucoup de gens, chaque fois avec des humeurs, des univers différents. Et là, j'ai une telle chance de travailler avec Isabelle et Olivia, notamment sur scène. Mais Isabelle, c'est vraiment... d'abord, c'est la bonté, c'est le regard, c'est la générosité. Et le théâtre, dans ces conditions-là, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Vous faites rire les gens avec des gens que vous appréciez, que vous aimez. Donc voilà, je voulais
bon, alors là,
cela.
Je suis persuadée que les auditeurs de Europe 1 captent les belles ondes, cette espèce d'énergie flamboyante, positive, formidable. Je vous embrasse tous les deux.
Merci. Merci
la pièce au Théâtre de la Renaissance à Paris démarre le 28 janvier. Je vous dis à très vite.
À très vite. Merci beaucoup. Merci à vous.
Au revoir.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet revient bien sûr demain dès 15h sur Europe 1 avec Frédéric Becbédé à l'occasion de la sortie de son dernier roman L'homme qui pleure de rire, paru chez Grasset.